Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI en ce début de semaine. Avec des mondialistes de retour et en forme sur les pelouses européennes en France, comme en Angleterre ou en Espagne, les champions du monde ou certains simples mondialistes sont illustrés. Florian Thauvin, Radamel Falcao et Wahbi Khazri en Ligue 1, Benjamin Mendy, Paul Pogba, Hugo Lloris en Première Ligue ou encore Ousmane Dembélé en Supercoupe d'Espagne. Voilà de quoi rallumer la flamme des championnats. Au cœur de l'été européen, où les spectateurs, même détendus par le rythme des vacances, sont allés au stade à Marseille, où chantent les cigales, à Tanger aussi, ou à Londres, il y a peut-être moins de cigales. Lionel Messi a une longueur d'avance sur tous ses grands joueurs. Il vient d'accrocher un nouveau trophée à son palmarès, le 33e, et il est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du FC Barcelone. N'est-ce pas, Alejandro Valente ?
Eh oui, c'est pas mal.
Bonjour. Bonjour. Je crois qu'il doit faire beaucoup d'envieux ce joueur parmi ses camarades. Bruno Salomon, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Bon, vous aussi vous avez vu des champions du monde.
Oui, juste sur un podium. Aperçu. En train de faire coucou avec quelques feux d'artifice sur une étoile, effectivement. Il en manquait une autre.
Oui, c'est ce qu'on aurait pu se dire. Salim Boumgali, bonjour.
Bonjour Annie.
Bon, chez vous aussi, du côté de l'Angleterre, des champions du monde.
Mais oui, et il fait beau, tout va bien. Le meilleur championnat du monde a repris, tout va bien.
Nabil Djellit, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bon, vous les avez vus partout, ces champions du monde.
J'en ai vu...
Sauf en Algérie.
Pardon ?
Sauf en Algérie.
Bah, la maman d'Mbappé est algérienne, donc en Algérie, voilà. On récupère comme on peut.
Allez, c'est parti pour l'émission du jour à Radio Foot.
Ça commence.
Preparado Messi. En los palos Baklitz. 1-2, casi 6 hombres en la barrera. El tiro de Messi. La ha sacado Baklitz.
Et voilà, le FC Barcelone vainqueur de la Supercoupe d'Espagne. Mais grâce à cette victoire, eh bien, Lionel Messi est devenu hier soir le joueur le plus titré de l'histoire de ce club catalan à 31 ans. Et il a remporté avec les Blaugrana la Supercoupe d'Espagne aux dépens de Séville. Match disputé dans le stade de Tanger au Maroc, juste de l'autre côté du Détroit, donc tout près de l'Espagne. Il s'agissait du 33e trophée de la carrière dans l'unique club dont il a défendu les couleurs, hein, il faut le dire. C'est quand même sur la durée. Et le détail, eh bien, ce sont notamment 9 Ligas, c'est-à-dire 9 titres de champion d'Espagne. Il y a aussi 6 Copa del Rey, 6 Coupes espagnoles. Bon, après, il y a les fameuses Supercoupes, mais il y a 4 Ligues des champions. Alors, un des comptes sans parler des 5 Ballons d'Or qu'il a dans son armoire. Messi, en tout cas, il a dépassé Iniesta, Piqué et Busquets, ainsi que Xavi pour ce qui est des titres glanés avec l'équipe de Barcelone. Une Pulga toujours au rendez-vous, de quoi rassurer son entraîneur à Barcelone, Ernesto Valverde.
Avoir Messi dans ton équipe apporte toujours des garanties. Tout le monde aime Messi car c'est un énorme joueur. Et là, vous me dites qu'il a gagné son 33e titre ? Waouh ! Je n'imagine même pas ce qu'on peut ressentir en atteignant une telle performance. Je n'y arriverai sans doute jamais, c'est beaucoup. Mais il est clair que si quelqu'un peut atteindre cela, il faut être un joueur de son niveau. C'est incroyable et tout le monde en a profité avec lui. J'espère seulement qu'il ne s'arrêtera pas là et qu'il gagnera encore d'autres titres.
Gagner encore d'autres titres ? Alejandro, ça veut dire que personne n'arrivera à le rejoindre. C'est un peu comme juste Fontaine et ses 13 buts en Coupe du Monde.
Enfin, il a de la marge quand même. Hein. Il a que 31 ans et là, la saison commence à l'Espagne. Et il est exceptionnel que Messi n'ait gagné pas d'autres titres au cours d'une saison. Donc, je pense que effectivement, le chiffre va continuer à augmenter.
Bruno, oui. ce Lionel Messi.
Il est tranquille là maintenant. Il va pouvoir en gagner des titres en Espagne très tranquillement pour voilà.
Ouais, puisque son allusion,
au départ de Cristiano qui a commencé à marquer avec l'Italie.
Enfin oui, sans que ce soit officiel.
Oui, bien sûr. Mais après derrière, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un extraterrestre. Il tient cette baraque Blaugrana, effectivement. Et après, derrière, il les empile. Je me demande, Valverde se demandait ce que ça doit faire. Est-ce qu'il prend toujours autant de plaisir? Une petite super coupe, hop, tiens, je vais te mettre ça près des livres et des bouquins, près de sa bibliothèque.
Mais c'est vrai que le musée doit être grand.
Ouais, c'est ça.
Il peut avoir une grande maison.
Oui, quelque chose en plus, il avait le bracelet des capitaines, si. Et donc c'est lui qui a soulevé les trophées, et jusque-là c'était Iniesta, oui, ces dernières années. Donc
avant c'était Xavi.
C'est une nouvelle étape dans sa carrière.
Et c'est ça, et au final, au classement donc de des nombres de trophées, vous dépassez Iniesta quand même, qui est l'un des hommes majeurs de ce Barcelone de ces dernières années. On parle de Messi à juste titre, mais Iniesta en fait partie.
Iniesta donc, en a réussir... 32, donc ça y est.
Voilà, et donc réussir symboliquement à dépasser Iniesta, c'est vous mettre encore plus dans le cœur des supporters de Barcelone. Après, on pourra toujours se poser la question, les supporters de Barcelone préfèrent qui au final? Messi, qui donc en est à 33 titres, qui a gagné ses Ligues des Champions, vous l'avez dit, ses championnats espagnols, ou d'autre côté, Iniesta, qui est, entre guillemets, l'enfant du pays, qui, n'est peut-être pas, entre guillemets, aussi génial que si, entre guillemets.
Il n'est pas catalan.
Il n'est pas espagnol. Mais surtout, Iniesta, qui lui a fait une chose que Messi ne fera sans doute jamais, c'est soulever un trophée mondial, une Coupe du Monde. Voilà. Je sais pas si on peut le comparer, mais voilà. Peut-être que Iniesta, finalement, reste devant.
Nabil.
Non, mais c'est vrai qu'il banalise tout devient normal. Est-ce que franchement entre le 26e et le 33e titre, je me demande si lui
Ah ben entre le 26e et le 33e,
parce que c'est exceptionnel, mais il réussit à banaliser ça, qui est fort en fait.
Ouais, voilà. Enfin moi en tant qu'amateur de football, je pense qu'on l'a déjà dit suffisamment ici, on a juste envie de le voir continuer le plus longtemps possible, lui.
Justement,
Ronaldo,
qu'est-ce qui peut encore le motiver selon vous, Nabil?
Il est à autant de ballons d'or que Cristiano Ronaldo, par exemple.
Il en a autant, oui.
Ouais, déjà passé devant, ça peut être pour lui un challenge, malgré le fait que lui, il soit moins exubérant par rapport au ballon d'or. On sent que c'est Cristiano Ronaldo qui est dans une quête.
Il y en a d'autres qui arrivent derrière maintenant. Oui. C'est peut-être aussi ça.
Oui, mais il y en a d'autres qui arrivent derrière. Mais est-ce que Neymar il est plus fort que Messi? Est-ce que Mbappé il est plus fort que Messi? Balle au pied. C'est encore. Je veux dire, on a parlé pendant la Coupe du Monde de passage de témoins. Le passage de témoin, pour moi, il doit se faire en club, et il faut confirmer. Le PSG s'en aurait été en 8e de finale de la Ligue des Champions. Messi, Cristiano Ronaldo, ils sont toujours à l'arrivée. Alors, c'est le football de sélection et le football de club, c'est aujourd'hui deux choses différentes, et on l'a bien vu. Donc, pour moi, il est à 31 ans. En plus, il a un truc, il est hors norme, il est exceptionnel, et puis il s'économise. Il marche les trois quarts du temps. Je veux dire, il est pas usé, Messi.
Il peut aller jusqu'à 35, 36.
Non, mais voilà. Enfin, je veux dire, et puis, il a toujours varié dans son football. Alors, peut-être qu'avec l'usure physique, il sera peut-être parfois moins capable de prendre le ballon à 50 mètres et dribbler 4 joueurs. Bon, ok. Peut-être qu'il le fera moins. D'accord, c'est vrai, il le fait déjà moins. Moi, pour la petite anecdote, là.
Mais il reste décisif dans un match.
Pendant les vacances, je me suis amusé à quelque chose. Vous allez dire, je prends des vacances, mais je reste dans le football. j'ai regardé des montages de vidéos.
Ah, il ne coupe
Messi,
jamais,
Messi et Mbappé au même âge. Ouais. Messi et Mbappé au même âge. À votre avis, qui est le plus fort?
Messi.
Voilà.
Mm-hmm. Alejandro, surtout, justement, est-ce que cette gloire, on peut dire, du côté du Barça, parce que Nabil parlait du football de sélection, occulte un peu et fait oublier même l'image de Messi en sélection. Alors, il y avait eu ces deux finales, trois finales même perdues, on sait deux en Copa América et une en Coupe du Monde. Et puis, on l'a vu un peu hagard, le regard perdu face à la Croatie. Ensuite, cette défaite face à la France, l'Argentine sortie en huitième de finale. Est-ce que c'est vraiment deux personnages totalement différents, ces deux Messi?
C'est difficile à dire, parce qu'il faudrait être dans sa tête pour savoir exactement comment il fait la part des choses. Mais je pense que quand on parle de motivation, moi je me rappelle la même histoire un peu avec Maradona. C'est vrai qu'il a gagné beaucoup moins de trophées, mais à un moment donné, on se disait qu'est-ce qui le motive, et puis ce qui le motive, c'est de voir ses enfants grandir, et ses enfants n'ont pas connu Messi d'il y a quelques années, et donc voir l'admiration dans les yeux de ses enfants, voir des souvenirs se construire avec eux, je pense que ça peut le motiver pour continuer à gagner des trophées.
Et on a parlé, juste pour la petite parenthèse, on a parlé de Messi, d'Iniesta, Xavi. Juste pour la petite anecdote, hier, Xavi joue encore, il est au Qatar à El Sadd, et il a délivré trois passes décisives lors d'un match face à El Arabi qui s'est conclu par un 10-1.
Et je complète les propos de Nabil. Ce week-end, également, Iniesta a marqué un but fantastique
dans son club. Il faut vite aller sur les réseaux sociaux pour le voir.
Avec une passe de Podolski qui est dans le même club, faut-il le rappeler. Il nous fait un geste dans la surface, il dribble le gardien. C'est sublime.
Enfin, c'était peut-être pas Séville en face, quoi. C'est-à-dire.
Oui, mais bon, il le fait toujours. Et ça, c'est beau.
Les enfants, c'est ça la motivation, selon vous, Bruno?
Et les livres d'histoire aussi. Ouais. Je pense qu'elle les
mais il est déjà dans le livre d'histoire du football.
Mais il veut pas qu'on les passe. Il y a un moment donné, c'est l'ego qui revient. Alors, il y en a un qui a un ego surdimensionné qui vous jette à la face du monde, c'est Ronaldo. Et Messi est quelqu'un d'un petit peu plus introverti, mais il a un ego. Il est rentré dans l'histoire et il veut mettre la barre tellement haute que de toute façon personne le rejoigne, ou en tout cas ça va le laisser 10 ans tranquille. Enfin, voilà.
5 ballons d'or, 5 souliers d'or, ce qui est des distinctions personnelles, citons au moins celle-là, et ensuite c'est 4 Ligues des Champions.
Il n'a pas envie qu'on le rejoigne, ça c'est clair, net et précis.
Juste pour compléter le propos, l'année dernière lorsque City atteint cette fameuse barre des 100 points en Première Ligue, beaucoup avant le match, les joueurs disaient ouais mais vous savez c'est qu'un symbole, on s'en fiche, etc. Lorsque le but est marqué à la dernière seconde, justement par City face à Southampton, il gagne 1-0, il passe la barre des 100 points. Une fête, on a l'impression qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde, parce qu'ils ont compris qu'atteindre cette barre, c'est entrer clairement dans les livres d'histoire de la Première Ligue aussi. Donc oui, quand vous pouvez atteindre et marquer l'histoire de votre sport, de votre championnat, vous le faites. Mais si tous les joueurs veulent le faire, évidemment.
Après, pour pondérer un petit peu, peut-être qu'il y a quelque chose qui est nouveau, c'est qu'il s'est aussi construit dans une dualité avec Ronaldo au Real Madrid, et Ronaldo a quitté.
Mais là, il est seul.
Donc, comme on le sait, là, je vous donne pas un scoop, le championnat espagnol pour l'Italie. Aujourd'hui, en Espagne, qui est le rival de Messi?
Peut-être Griezmann.
Moi
j'ai du mal à y croire.
C'est ça.
Non, je veux bien l'entendre, mais quel est celui qui peut le regarder dans les yeux? Je pense pas que Griezmann puisse regarder Messi dans les yeux.
Ah oui, déjà donc, au nombre de.
Donc je pense que ça a stimulé également cette dualité.
On s'en souvient.
Ce match dans le match avec Cristiano Ronaldo.
Ça va continuer à distance de toute façon, puisque on va se retrouver en Ligue des Champions.
Mais est-ce que c'est la question? Et voilà, pareil, le week-end, on parle aussi avec les copains de football, et c'est la question que je me posais, c'était de se dire, Cristiano Ronaldo a eu le courage de quitter le Real Madrid. Il aurait pu rester dans son confort.
Le courage, ça va.
Il n'a pas eu le courage. Il n'est pas à la guerre. Hein.
On est d'accord.
On a 30 millions d'euros.
Tu vois ce que je veux dire. Ouais. On reste dans le confort.
C'est se frotter à un nouveau défi.
Voilà. Moi, j'aimerais voir Messi
sur un nouveau défi. Surtout que c'est son troisième grand club.
Voilà. J'aimerais voir Messi sur un nouveau défi. Après, je ne sais pas. Pourquoi pas aller rendre gros.
En revanche, la stimulation que vous évoquiez, moi je pense qu'il l'aura toujours. Parce que Cristiano Ronaldo est peut-être dans un autre championnat, mais s'il avait la Juve gagne et avec Cristiano qui marque un triplé, le lendemain, Messi sera observé quand même, même si c'est pas le même championnat. Messi voudra
Passé cette saison.
À Cristiano à distance quand même, moi j'en suis persuadé.
En tout cas, Alejandro, vous soulignez quelque chose, il est le capitaine du Barça pour cette saison, mais il est un capitaine parce que c'est... au Barça, on est bien éduqué, je dirais, c'est dans la lignée, c'est à l'ancienneté.
Oui, mais quelque part, il devient un peu le dépositaire de cette belle histoire du Barça, de Guardiola, on va dire, et même plus loin, de ce Barça issu de la Masia, ce Barça assez magique qui a marqué quand même l'histoire du football dans ces dernières années.
Oui, d'ailleurs, tous les joueurs qui ont autant de trophées presque que lui sont tous de cette génération, hein, Busquets, Piqué et Xavi et Iniesta.
Il est peut-être un petit peu plus jeune parce qu'il était le surdoué. Donc il est arrivé plus jeune que les autres au même niveau, mais quelque part c'est un symbole aussi de voir Messi porter enfin ce brassard. Il était deuxième capitaine l'année dernière, là il est le vrai capitaine, et ce n'est pas anodin à Barcelone.
Alejandro, toi qui connais Léo Messi, est-ce qu'il a vraiment la carrure pour être un capitaine, ou est-ce que c'est juste de l'aura? Est-ce que c'est juste le côté, il a besoin de dire trois mots et on a une bande de chiens qui le suivent, ou est-ce qu'il est capable de grands discours et de taper du poing sur la table et d'emmener les gars? C'est la question que je me pose.
Grand discours, je sais pas, mais c'est quelqu'un qui, par son exemple, peut porter les autres. Et je pense qu'en Argentine, au-delà des problèmes que l'équipe a connus avec toutes les histoires que vous savez, c'est un capitaine qui est apprécié, qui n'est pas du tout contesté. Jamais on a remis en cause la pertinence d'en faire le capitaine. Et je pense qu'à Barcelone, il en va de même. C'est quelqu'un qui est très apprécié et qui est très respecté, et même s'il parle pas beaucoup, il est très écouté aussi.
Pour ce 33e trophée, en tout cas, Lionel Messi n'a pas marqué. C'est Ousmane Dembélé, un des champions du monde, qui a offert la victoire aux Catalans d'une superbe frappe. Dembélé, le Barça, le Real, la Liga et Cristiano, eh bien, nous y reviendrons dans la semaine puisque le championnat commence vendredi soir. D'ailleurs, on le disait, hein, cette Liga se disputera sans Cristiano. C'est la première fois depuis 2009 que le championnat espagnol commence sans le grand joueur portugais, parti lui en Serie A. Donc, il a inscrit son premier but sous le maillot des Bianconeri. Mais c'était en amical, ça ne compte pas vraiment. Et on parlera aussi de la Serie A cette semaine. Effet Coupe du Monde dans les stades de Ligue 1, peut-être, en tout cas on peut se l'imaginer, puisque la fréquentation cette première journée de championnat de France a enregistré une très belle progression, plus 20% de spectateurs en tribune. Ça peut être une des explications, Bruno ?
Oui, ça peut être une des explications.
En plus, c'était dans les trois villes où passait le trophée qu'est la Coupe du Monde, hein, entre Paris, Lyon et Marseille.
On a quand même pu voir qu'à Lyon, il y avait quand même pas mal de trous dans les gradins.
Le dit pas Jean-Michel.
Voilà, que dans... À Nice aussi, c'était pas forcément
c'était
plein.
C'était surtout dans la pelouse, les trous.
Oui, c'est ça. Oh là là, quel scandale. Quel scandale.
Parce qu'à Lyon, c'était absolument catastrophique. À Nice, disons-le à nos auditeurs, ouais. On a une pelouse absolument indigne, imputable à une compétition quelques jours auparavant. De voitures tout terrain avec d'énormes pneus. Alors je sais pas comment on appelle ça, mais ça a ruiné la pelouse.
Donc
votre outil de travail pour le coup.
C'est la problématique des stades,
privés. Bah oui,
les louer pour faire, autre chose. Voilà, où tu veux faire rentrer.
Ah, c'est mieux avec un concert de Madonna. Hein, c'est moins de problème.
En tout cas, une chose est sûre, record de spectateurs et record de buts aussi pour cette Ligue 1. 33 buts, ça faisait plus de
10 ans.
Ouais, oui,
enfin,
c'est ça.
En tout cas, moi, j'ai.
Merci Brice Samba.
Oui, c'est ça. Merci Brice Samba. Merci aux gardiens et merci à des promus, pas aux dents longues, mais qui ont pris la décision. Et j'espère qu'ils vont tous partir là-dessus. Un petit peu comme Dijon, il y a un ou deux ans, pour se maintenir, qui ont décidé de jouer et de tenter le coup. Ça va pas gagner à tous les coups, mais quand je pense à Nîmes et Reims, qui ont joué au foot, qui sont arrivés avec leurs idées et voilà, il y a eu que des victoires, il y a pas eu de match nul.
Et
dans
du coup,
cette Ligue 1.
Ça peut remplir les stades. En tout cas, le champion en titre qui est traîné donc son titre hier soir et le remettait en jeu, le PSG a clos cette journée par une victoire 3-0 sur Caen. Neymar, hein, qui a marqué le premier but de la saison du PSG et son premier but donc cette saison. Présence aussi de nombreux jeunes, hein, conjugués alors à l'absence de plusieurs cadres. Et cela a donné une prestation, on va dire, en demi-teinte d'ailleurs. C'est ce que confirme Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand de ce Paris Saint-Germain.
Il y a encore beaucoup de travail. Nous avons gagné 3-0, mais je pense que nous devons encore nous améliorer. La situation est bonne maintenant, mais nous avons encore des choses à prouver. Nous avons une bonne base de travail pour redémarrer l'entraînement la semaine prochaine. Bien sûr, nous avons besoin de plus d'intensité. Nous devons resserrer les espaces entre les lignes, être plus précis et fluide dans les passes et être plus physique en défense. L'atmosphère était géniale et c'était un réel plaisir d'être ici. Nous voulons nous améliorer pour rendre les supporters heureux.
Alors s'améliorer sans doute, évidemment, Bruno, même si on gagne 3-0 d'entrée, mais peut-on déjà lire alors c'était le deuxième match officiel puisqu'il y avait eu ce match de super trophée des champions là. Est-ce que on peut déjà lire un peu le jeu que veut instaurer Tuchel à la lumière de ces deux matchs?
Surtout sur la première mi-temps, la première mi-temps du Paris Saint-Germain où il y a eu un pressing assez haut, très agressif, ce qu'on ne voyait peut-être pas forcément avec Unai Emery, pas mal de changements de système pendant la rencontre, c'est-à-dire que ouais, les petites modifications qui apparaissent tout d'un coup avec trois centraux, tout d'un coup il y en a plus que deux, puis ça se modifie. On sent qu'il est à la baguette. Il y a un travail énorme par rapport à cette équipe. Moi, je suis rentré, on discutait avec Salim tout à l'heure en arrivant dans l'émission. Moi, je suis rentré dans le fan club de Thomas Tuchel parce que je faisais une indigestion de Unai Emery, je vais être très clair. Et son opération séduction est en train de marcher
pour l'instant. C'est Salim qui va en faire une d'indigestion, vous allez voir.
C'est ça. Mais en tout cas, son opération séduction sur sa présentation, et il est très dans la calinothérapie avec Di Maria, avec Neymar.
Avec
les jeunes aussi, mais les jeunes, il a été très précis sur les jeunes la veille du match. Il y a des journalistes qui commençaient à lui demander, bon, bah finalement, vous n'avez pas besoin de latéral droit, vous avez le petit Dagba qui est en train de faire l'affaire. Il a dit, attendez, on se calme, c'est des belles surprises. Ils vont travailler, je leur donne un peu de temps de jeu, c'est la récompense, mais que les gamins ne pensent pas à une seule seconde qu'ils vont être titulaires indiscutables. Et je trouve que déjà, d'avoir ce propos, c'est plutôt intéressant. Après, sur ce qu'on a vu hier, ce PSG est encore en large construction,
mais
il y a une petite patte Tourelle quand même.
Oui, déjà.
Déjà, on avait au moins des points communs avec son passage à Dortmund, voire même à Mayence, c'est le fait d'utiliser des jeunes. Il le faisait beaucoup, notamment à Mayence. Alors, vous allez me dire, Mayence, c'était un club qui avait moins de moyens, donc forcément...
Et moins de prétentions, surtout.
Exactement, donc il était obligé de piocher dans le centre de formation, c'est ce qu'il faisait. Et là, au final, il l'a fait un peu obligatoirement, mais au final, ça s'est plutôt bien passé. Après, oui, quand on voit l'adversité hier, il n'y avait pas besoin non plus de forcer, et à un moment donné, il faut être deux pour faire un bon match. Si vous avez en face un adversaire qui ne l'est pas, ben vous n'allez pas vous forcer non plus, ce n'est qu'un match de reprise.
Enfin, quand même, quand a eu tiré sur le poteau, oui. Il y a eu deux beaux arrêts de
Didi.
De Buffon.
Didi, yes. encore quelques bons restes.
Quelques restes,
effectivement, mais
ça
après
durera combien de temps, ça, c'est autre chose.
On va voir ce que ça donne effectivement, mais en tout cas on a vu les jeunes, le PSG termine avec sept jeunes du centre de formation sur la pelouse, avec un entraîneur qui à la fin de la rencontre s'excuse auprès de Timothy Weah, l'international américain, en disant je suis désolé, il a fait une super préparation et bon bah il y a Neymar devant donc je lui donne que 9 minutes, mais bon bah il a été récompensé, il marque un but. Enfin il est parti dans une opération de séduction. Combien de temps ça va tenir, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était intéressant.
Justement, Nabil, Timothy Weah, alors évidemment, hein, l'ombre du père qui est derrière lui, mais ce jeune quand même, il marque son premier but en Ligue 1, et son papa avait fait à peu près pareil au cœur de l'été, comme ça. Est-ce qu'au-delà du nom, il y a une filiation ? Parce que pour ce qui est de la génétique du talent, on sait que ça marche pas.
C'est difficile à dire, Annie, puisque ça reste un potentiel. Il va falloir voir comment il se développe. Il va falloir qu'il gagne de la confiance, du temps de jeu. On sent effectivement qu'il a des qualités et qu'il va faire une carrière. Mais à quel niveau la carrière ? Ça, on peut pas encore le savoir. Souvent, pour ces jeunes joueurs, le mieux, c'est quand même de partir. Parce que le temps de jeu va rester quand même globalement limité. Quand vous vous permettez de laisser des Guedes, des Draxler sur le banc de touche qui peuvent également prendre la pointe, parce que c'est des joueurs qui peuvent jouer en pointe. Donc Weah, oui, il est à surveiller de près, mais alors soit on lui garantit une vingtaine de matchs sur la saison, parce que le Paris Saint-Germain va faire la différence en championnat, parce que le Paris Saint-Germain est sur plusieurs tableaux, et là on va pouvoir vraiment...
Et parce que le Paris Saint-Germain quand même a vécu, le nom Weah est attaché au club, à l'histoire.
Oui, mais il faut se détacher de ça, parce après c'est la vérité du terrain qui va parler.
C'est
en fait, c'est à double tranchant. Soit c'est un catalyseur fantastique, soit effectivement, t'es sûr qu'il s'appelle Weah ? Non mais, vous voyez ce que je veux dire ? Je suis un peu dans la caricature.
Mais bien sûr, mais pardon, mais j'exagère presque, mais Thomas Tuchel, est-ce qu'il, entre guillemets, il connaît George Weah ? Oui, il le connaît, mais il s'en fiche que George Weah soit passé par là, au final, c'est Timothy Weah.
Oui, mais
il
y a des dirigeants.
Les dirigeants de Nasser Al-Khelaifi et autres, qui a eu George Weah par le passé.
Regardez le fils de Zidane, Enzo Zidane, il est où aujourd'hui ? Il a signé en deuxième division espagnole à Ponferradina, si je dis pas n'importe quoi. Je crois que c'est ça. Hein. Donc, le fils Zidane, quand vous vous renseignez au départ, vous savez, il y a eu un buzz énorme. Oh, le fils de Zidane arrive, tatati tatata. Donc, c'était extraordinaire. Sauf que quand on se renseignait un petit peu en coulisses, pour beaucoup de formateurs, parce qu'il est à un moment passé, je crois, par les catégories françaises, c'était un joueur...
Lambda.
Moyen,
pas,
quoi.
Pas moyen, c'est-à-dire techniquement bien formé et tout, mais... Personne ne se projetait sur un phénomène ou un grand joueur. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester très très prudent sur ce genre de situation.
Juste pour Tim Weah, une chose, il pourrait être la doublure d'Edinson Cavani. C'est à peu près l'idée de Thomas Tuchel et des dirigeants parisiens, c'est-à-dire d'être sur le banc et de rentrer sur peut-être les 10-15 dernières minutes et de faire cette saison comme ça. Est-ce que c'est bon pour un jeune de 19 ans, point d'interrogation. Et il faut le savoir, il y a une histoire au Paris Saint-Germain, vous faites bien de le souligner, Annie, parce qu'en fait, les Weah ont toujours eu porte grande ouverte. Et il y a eu Weah Junior,
le premier, il y a le grand qui était au Milan AC, qui a été formé au Milan AC, qui s'est complètement perdu, qui a joué du côté de la Bulgarie, etc., qui a eu les plus grandes difficultés à porter son nom. Il a été accueilli en CFA, en quatrième division au Paris Saint-Germain, parce que c'était un OEA à l'âge de 26 ans. Mais moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, on a discuté. Il m'a dit, j'ai pété les plombs avec un nom comme ça.
Ah oui.
Tim OEA, il y a une chose qui transpire chez ce garçon. Si je devais faire un petit parallèle, il a ce qu'a Kylian Mbappé en termes de maturité. C'est-à-dire que Tim Weah, déjà, il parle à la presse extrêmement facilement. J'ai encore souvenir sur son premier match, ses premières minutes avec le PSG, c'était du côté de 3 du stade de l'Aube. Il a attendu la presse, il est allé parler au micro comme un vieux briscard. Ça ressemblait un petit peu, je vous dis pas que c'était du Kylian Mbappé, parce que Kylian Mbappé, ça fait Hippocagne et la Sorbonne, mais en tout cas, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que c'est un garçon qui est prêt, qui a mentalement visualisé et qui est en train de se dire, je suis en train de travailler avec Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar. Si t'es plutôt malin et intelligent et que tu gères bien ta carrière, une saison avec eux...
On en prend de la graine.
Ça peut en prendre de la graine. Hier, il fait poteau et but. Et son but, c'est un truc de renard des surfaces. Et son poteau, sa combinaison avec le petit Moussa Diaby, qui est à suivre aussi. Je pense que l'ami Nabil le connaît.
Il doit être prêté
vite, effectivement. Moussa Diaby, international U19, petite combinaison en entrée de surface de réparation sur le côté. Ouéa, première chose qu'il fait, il frappe. Il y va, il tape le poteau. C'est un garçon, en fait, qui est à l'instinct et qui surtout apprend beaucoup et vite et qui regarde ce qu'il a autour de lui. Je pense que ça peut être intéressant. Pardon d'avoir été un peu long sur lui, mais...
Justement, dû à son nom, on peut toujours s'interroger.
C'est un préjugé favorable pour lui, Annie, soyons sincères.
Bon, il y a presque une dimension... de son papa, nous disant ici, il a voulu, on l'a mis, il a été accepté aussi au Paris Saint-Germain.
Pour le PSG, c'est prestigieux et il a plus, lui, de chance d'avoir du temps de jeu que certains qui sont passés par le club et qui ont dû partir, je pense à Hudson-Edouard ou à d'autres, parce qu'il y a quand même une dimension politique dans cette histoire, puisque son papa est devenu président de la République du Libéria.
Mais vous pensez que Thomas Tuchel, lui, va penser comme ça?
Thomas Tuchel, il voit le matériel qu'il a. C'est-à-dire qu'il est en train de voir qu'il a des garçons comme Timothy Weah, comme Christopher Nkunku. Il voit qu'il y a le petit Dagba qui peut servir, mais ça aussi, il faut le prêter. Mais des garçons comme Nkunku, comme Weah, je pense que ils vont rentrer dans la rotation. Parce qu'en plus,
on va les intégrer progressivement.
Ouais, il va les intégrer.
Mais le bilan, il se fera à la fin de saison, et c'est là, ça sera intéressant d'en reparler, et notamment sur la formation du Paris Saint-Germain, puisqu'ils ont fait une recrue à 37 millions d'euros, là, on en parlera peut-être plus tard, qui arrive d'Allemagne. Et dans l'autre sens, ils ont laissé filer ces dernières années beaucoup de pépites que les clubs allemands, eux, sont venus chercher, non pas pour 37 millions d'euros, mais libres.
Alors, ce ne sont pas, en tout cas, les Parisiens qui sont aux commandes de cette Ligue 1, c'est l'OM, mais oui, avec 4 buts inscrits.
Mais oui, le Champions Project, c'est ça, c'est d'être leader à la première journée.
C'est le VAR Project.
Les Marseillais ont donc, eux aussi, eh bien, comme 7 autres équipes de ce championnat, pris un bon départ. Pas de chichi, en tout cas, pour les champions du monde. On ne les garde pas sur le banc, en se disant qu'ils sont peut-être fatigués. Florian Thauvin, il est rentré et il a inscrit le 4e but olympien.
J'étais déterminé, j'avais envie de rentrer, j'avais envie de marquer. Ça m'avait manqué de ne pas être sur le terrain, donc le peu de temps que j'ai eu à jouer, j'ai essayé de le faire du mieux possible et ça a payé. C'est un beau but, donc voilà, je suis content. C'est comme ça, on rentre, il reste 10 minutes, donc voilà, il faut pas perdre de ballon. J'ai perdu un ballon qui était un peu compliqué à négocier, donc ça m'a mis dedans tout de suite, et puis après j'ai cette occasion que je m'en fous. Honnêtement, ce serait mentir que dire que je suis prêt aujourd'hui. On a eu un préparateur physique pendant une semaine en vacances, là ça fait 5 jours que j'ai repris l'entraînement, donc non, c'est beaucoup trop tôt, il va falloir du temps pour que je sois prêt, mais je ferai le maximum pour être le plus rapidement possible.
Alors Marseille vainqueur en cette première journée, mais on n'a pas non plus tout à fait idée, pas plus que pour le PSG, du profil exact de l'effectif. Monaco a gagné, Lyon, Saint-Etienne, les meilleurs sont au rendez-vous, Nabil ?
Les meilleurs, les gros sont là, ils sont au rendez-vous. Alors certes, on peut toujours discuter de quelle est l'équipe qui a été la plus impressionnante et aussi de l'adversité également. Moi, je trouve que ce qu'a fait Monaco, par exemple, à l'extérieur, c'est pas mal, parce qu'il faut aller gagner à la Beaujoire, et pour un match de reprise, c'est pas simple, en sachant qu'il y a aussi des absents du côté de Monaco. Et puis il y a une équipe qui, encore une fois, ne repart pas de zéro, mais va repartir,
avec beaucoup de jeunes,
va repartir à 50%, quoi, et puis il faudra trouver les autres 50% pour être extrêmement performant. L'Olympique de Marseille, on en parlera aussi, a dégagé quand même une impression de puissance avec des recettes similaires à ceux qu'on a vu la saison dernière, mais halte au piège parce que de toute façon, il y a un match assez chaud qui se présente samedi prochain ou dimanche.
Dimanche.
Du côté de Nîmes et des Costières pour le retour de Nîmes en Ligue 1. Il faudra des ajustements au niveau du mercato. Moi, en règle générale, et je lâcherai la balle après ça, je fais un bilan après 5 journées. Après 5 journées, je sens déjà des tendances lourdes. Mais en tout cas, il y a quand même des équipes qui ont envoyé des messages dans l'autre sens. Toulouse, par exemple, ils sont plus partis pour jouer le maintien.
Oui, puis n'oublions pas qu'il reste 3 semaines de mercato. Eh oui. C'est énorme et beaucoup d'équipes vont encore beaucoup changer.
Oui, puis au vu peut-être justement de ces premières journées, voir les besoins.
Et Annie, qu'est-ce que je vous ai dit dans le Café des Sports? Quelle était mon équipe qui devait sonner le réveil et qui finirait dans les 4?
Saint-Étienne.
Moi, je me méfie quand même. Je suis un de mes facteurs X, mais
Wabi-Casery notamment.
Faudra surveiller Lille quand même aussi.
Ça, c'est Alejandro.
Lille, il avait dit qu'il fallait surveiller.
Vous avez pas écouté le Café des
Sports. C'est moi qui est sorti là.
Moi, j'en profite puisque je suis sur une radio panafricaine également. Nicolas Pépé, qui est quand même la vedette entre guillemets ou la tête d'affiche de cette équipe là, pied gauche, milieu excentré.
Il a tapé dans l'œil de beaucoup de recruteurs.
Ouais. Alors il y a la Roma qui est intéressée. Il y a surtout là, et je l'ai écrit sur le site de France Foot, il y a le FC Séville qui est très très intéressé. Donc ça dépendra, par exemple pour Lille. Parce que si vous avez perdu déjà, par exemple, Malcuit, le latéral droit, même s'il a été remplacé par un Turc qu'on va découvrir du côté de Lille, si vous perdez votre meilleur côté avec Malcuit et Pépé, moi je vous annonce déjà, c'est pas la même saison.
Tout à fait.
Bon, ben voilà, en tout cas, pour ce qui est, il y a aussi l'international Alejandro Hein, burkinabé, Bertrand Traoré, il est pas mondialiste,
il a marqué,
mais il est juste,
il a marqué. Il a fait une bonne première mi-temps, en tout cas.
Il a bien participé à la victoire.
On attend
de
plus
Lyon.
De régularité, quand même. De ce joueur, mais peut-être que cette saison, Annie, il va davantage la faire dans l'axe.
Il a plus
que sur le côté.
Mais ce qui est intéressant en parlant des gros, c'est vrai que c'est l'un des premiers exercices de championnat sur ces 10 dernières années où on voit les quatre. Prêts à l'heure, qui prennent leur petite victoire et qui attaquent en fait.
Ouais, c'est les gros à plein régime là.
Surtout, ils savent que c'est peut-être en début de saison qu'il faut pas perdre de points, hein, parce que on se souvient de Monaco l'année dernière, ils en ont laissé filer beaucoup, ils ont eu du mal à raccrocher pour finir finalement deuxième, mais peut-être que c'est après, à ce jeu-là aussi qu'on peut piéger le PSG.
Après, je sais que c'est un club qui est aimé aussi en Afrique, mais Marseille, moi je suis désolé. Tu joues pas les trois premières places avec Germain et Mitroglou.
Ah, évidemment.
Mais on sait qu'ils sont en attente.
Et c'est pour ça que on va attendre avec eux. Là pour ça, pour le milieu de terrain, pour l'attaque, il y a encore des choses à faire.
En tout cas, une petite cérémonie d'adieu à laquelle on a assisté hier soir, n'est-ce pas, hein, sur la pelouse du Parc des Princes. Nous y étions. Oh. Il était en Ligue 1 depuis 7 saisons. Il jouera l'année prochaine en Italie, où il est reparti sous le maillot de la Roma. Javier Pastore a hier fait ses adieux au Parc des Princes.
Plus de 42 millions d'euros. Imaginez.
Louis, merci beaucoup pour toutes ces années que j'ai passées ici. Vous restez toujours dans mon corps. Vous êtes ma famille aussi, merci beaucoup. Merci,
je vous demande de vous arrêter.
Alors c'était le tube de l'année.
C'est un pastoriste. Hein, il faut savoir qu'il s'était surnommé les
c'est
fans de Javier Pastore,
hein,
voilà,
du PSG.
Les fans de Javier Pastore au PSG, c'était carrément une communauté sur les réseaux sociaux, les pastoristes de la première heure. Ça faisait un peu voilà secte.
Ils ont dû pleurer alors hier.
Ah, hier ils ont dû pleurer. J'en connais quelques-uns effectivement qui ont pleuré de le voir dans sa belle chemise, les cheveux plaqués.
Bien gominés.
J'ai pas eu ce sentiment de tristesse. Je me suis dit que c'était bien que ça s'arrête. Voilà, pour moi, c'était un peu le
ressenti. Quand on voit la tête de Salim Bongali, si vous imaginiez,
attention, et on l'a vu évidemment, il y a eu des gestes fabuleux, notamment au début, je me souviens d'un but face à Brest, l'un de ses premiers buts qui est splendide, bref, mais on l'a plus vu quand même à l'infirmerie que sur les terrains au final, ces dernières saisons, à un moment donné, on se disait à chaque fois c'était la saison trop, et au final il partait pas.
Non mais c'est terrible ce que dit Salim, parce qu'on a plus l'impression qu'il a marqué l'histoire de l'infirmerie du Paris Saint-Germain que le terrain. Pour autant, c'est un joueur absolument exceptionnel.
Non, mais en même temps, on a tous dans la tête peut-être des images justement d'un toucher de ballon absolument magnifique.
Combien de matchs vous retenez
et des buts. Non, mais je dis à la fois, je suis d'accord avec vous, Nabil, c'est l'infirmerie, et à la fois, c'est une espèce de qualité. Mais on le sait, puisqu'il n'était pas dans l'équipe d'Argentine en Coupe du Monde, Alejandro, tout simplement.
Moi, ça me rappelle un peu Aymar, qui a connu un peu un destin comparable, c'est-à-dire le joueur génial, qui est tout le temps blessé, qui a beaucoup de soucis. Cela dit, je pense qu'il a jouer un rôle essentiel dans le lancement de la fusée.
Après, c'est le premier star.
42 millions, 2011. Vous savez quoi? Je pense que sa carrière bascule pas, comme pour le Paris Saint-Germain, sur le premier quart de finale en Ligue des Champions à Barcelone.
Il marque.
Si jamais tu te qualifies, ça devient un dieu vivant. Parce qu'en plus, il fait un super but, etc. Bon, derrière Pedro, machin, Messi qui entre et c'est fini. Et je pense que ça bascule. Juste pour la petite anecdote, hier, des caméras de Canal+ ont pris une conversation entre Javier Pastore et Lévin Kurzawa. Et je trouve ce que dit Javier Pastore terrible et pour notre championnat et pour le PSG. Et finalement, ça me fait un peu mal au bide. Kurzawa lui dit « Alors, comment ça se passe en Italie ?» Et là, Pastore lui dit ah là, on court beaucoup plus là-bas et on travaille plus.
Qu'est-ce qu'on court
Bravo quoi. Là c'est au top.
Donc Kurzawa il risque pas d'y aller.
Hein. C'est ça.
Enfin Kurzawa pour la petite anecdote, si Tuchel joue à 3 derrière avec un piston gauche, il a intérêt à faire une prépa d'athlète. Hein.
Bah, c'est ça. Et c'est, il est en train de la faire mais ça coince déjà et il est en train de se blesser à chaque fois.
Merci Pastore, ciao.
Allez, ciao, on part. Salim, il a très envie qu'on parte du côté de l'Angleterre. On court plus en Angleterre, Salim ?
Un peu plus, oui, un peu plus de contact. Je pense que Javier Pastore aurait pu avoir un petit peu mal. Ah,
vous savez pourquoi il est comme ça, en fait ? Parce qu'il le mercato. Là. Non, mais parce que tout le mercato, il était annoncé à West Ham, Pastore. Et je vous rappelle que.
L'FMB de West Ham n'était pas prête.
Alors, les Reds. On va commencer par eux quand même. Honneur aux Rouges, parce qu'ils sont en tête de première ligue, un peu comme Marseille. Alors après, ça dépend peut-être. Mais là, quand même, d'entrée, l'équipe de Jürgen Klopp a frappé un grand coup. D'abord, ils ont gagné sur le 4-0, ça c'est comme Marseille. Contre West Ham, ça vous avait peut-être un peu mal. Mais l'équipe a aussi marqué les esprits en démonstration avec, eh bien, non seulement son trio qu'on a vu l'année dernière et qui faisait déjà fureur, Salah, Mané et Firmino, et puis en plus avec Naby Keita, l'international guinéen en provenance de Leipzig, qui est rentré dans le jeu. Alors on pourrait même penser à nos internationaux là, Pavard et Hernandez, hein, dans l'équipe de France. Eh bien là, c'est Naby Keita qui rentre dans cet effectif. Et ça n'a même pas surpris l'entraîneur Jürgen Klopp.
Naby Keita a joué car c'est un très bon footballeur et je le dis depuis le début. Il s'est vraiment vite adapté. C'est un type de jeu similaire et une position semblable à celle qu'il occupait à Leipzig. Bien sûr, il peut jouer à différents postes, mais je pense que le poste de numéro 8 lui convient en ce moment, donc tout va bien. Il reçoit aujourd'hui beaucoup d'aide de ses coéquipiers.
Alors, des super renforts, cet international guinéen, c'est lové dans le rôle ou c'est un peu la chance du débutant, c'est-à-dire premier match, on montre tout?
On a envie de dire un peu les deux, alors chance du débutant peut-être, mais tout de même, lorsque vous êtes dans ce milieu de terrain déjà, avec une ligne d'attaque qui est formée, vous l'avez dit, Salah, Mané, Firmino, il faut quand même déjà réussir à leur transmettre les ballons qu'il faut, il faut déjà réussir à les combinaisons qu'il faut, et ça, il a réussi à le faire sans aucun problème, à faire les récupérations de balles quand il le fallait très bas, à repartir très tôt, à être entre les lignes des joueurs de West Ham. Enfin, un premier match parfait, en fait. Il y a eu des petites erreurs, évidemment, mais globalement, enfin, il a été épatant pour un premier match de première ligue. Il n'était au final que dans un autre championnat, en Allemagne. C'était pas du tout la même chose. Réussir à tel point un premier match, c'est ça qui est épatant.
C'est le joueur qui leur manquait, j'ai l'impression, du côté.
Et qu'ils avaient, qui s'était réservé.
C'est le joueur qui leur manquait, parce qu'ils ont un bon gardien maintenant.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai. C'est un gardien qui a coûté cher.
Fekir leur manquera peut-être aussi, mais ça, c'est une autre histoire.
Non, mais ce qui est impressionnant, en tout cas, hier, encore une fois, ce n'était que un West Ham qui est en préparation encore, mais vous avez des anciens, entre guillemets, Salah, Mané, Firmino, qui répondent présent, Salah, Mané qui ont marqué. Vous avez des nouveaux, Keita qui a montré sa qualité, Alisson qui dégage une certaine sérénité dans les buts. Enfin, ou plus un banc qui impressionne. C'était ça parfois le petit défaut de Liverpool la saison dernière, c'est d'avoir un banc un peu défaillant. Là, vous aviez sur le banc un joueur comme Fabinho, comme Lallana, comme Sturridge. Enfin, vous avez des joueurs qui sont présents désormais sur ce banc.
Sturridge qui rentre, qui marque.
Qui rentre, qui marque au bout de 24 secondes.
Chamberlain qui va revenir également, qui s'est blessé en fin de saison l'année dernière et qui leur fortement manqué.
Et c'est là où vous dites, là, ça peut devenir épatant et donc faire peur. Pour
disons les choses clairement, c'est les favoris à la deuxième place.
De toute façon, Liverpool...
Pas que.
Ils ont un Champions Project. C'est un peu les Marseillais d'Angleterre quand même, à quatrième.
Oui, mais eux, ils arrivent à aller en finale de Ligue des Champions. Non,
c'est une équipe qui a réussi le meilleur coup de Liverpool. Bon, Naby Keïta, Fabinho, pas de problème, top player. Mm-hmm. En plus, Keïta, c'est une courroie de transmission incroyable et qui est capable aussi d'apporter dans la conservation du ballon, qui était, je pense, une des choses qui leur manquait la saison dernière. Moi, pour moi, leur meilleur coup, c'est qu'ils ont gardé les deux et les trois devant, et surtout Mané Salah. C'est ça, parce qu'ils font des saisons XXL. C'est là qu'on voit que Liverpool, financièrement, c'est costaud. Alors, on a parlé.
Mais Nabil, pour eux cette année, en fait, Alejandro est provocateur en disant un bon deuxième. Mais pour eux cette année, c'est clairement le titre sinon rien. Non, il l'a dit.
Ils vont matcher. Ils sont. Voilà, c'est ce qu'on attend tous, c'est de savoir. Moi, mon interrogation.
On se souvient que l'année dernière, c'est eux qui avaient gêné City.
Ouais, ils sont outillés. Ils sont outillés pour gagner le titre de champion d'Angleterre, mais. Ça va être intéressant de voir à quel point ils vont être capables de faire le match avec Manchester City, parce qu'on va en parler juste après. Mais Manchester City, c'est inouï. Hein.
Oui, parce qu'on est en train effectivement de dire c'est l'année où Liverpool doit tout montrer, etc. Ah. Sauf qu'en face, City s'est renforcé aussi. C'est ça le truc. On va parler du carrière de Mahrez. Il y a d'autres joueurs qui sont en train de démarrer la saison de manière épatante. Bernardo Silva, il était sur le Community Shield de meilleur joueur.
Il a encore
été le meilleur joueur face à Arsenal.
Ils ont recruté Benjamin Mendy aussi, qui pour le coup va participer à la saison. Puisque l'année dernière, souvenons-nous, Annie.
Ils ne viennent pas de le recruter. Non, mais c'est de l'humour. Mais oui, je
fais de l'humour british avec du flegme.
Ah oui,
non, mais.
J'essaye.
Non mais Mendy l'année dernière, c'est une recrue qui joue jamais. J'ai le melon mais pas le chapeau. Bah, c'est une autre histoire. Non mais Mendy à gauche, c'est l'année dernière, il a fait le mécano, l'ami Guardiola. Mm-hmm. Il a mis Delph à gauche, si je dis pas de bêtises, en début de saison, Salim.
Ensuite,
il a mis qui à gauche?
Il a tourné, même Fernandinho a joué à gauche.
Il a tout tenté. Et là, ils ont un latéral gauche qui peut être absolument exceptionnel.
Eh ben justement. Exceptionnel, mais quand même, il y a alors vous allez nous aider à décoder peut-être Salim, parce que lui aussi il a de l'humour, Pep Guardiola, Nabil.
C'est pas que de l'humour.
Justement, on va l'écouter, Pep Guardiola, parler de Benjamin Mendy, auteur donc de deux passes décisives hier, mais on le comprend bien, je crois qu'on attend plus de lui.
Mendy, c'est Mendy. Il est comme ça. Parfois, on a envie de le tuer. Parfois, on se dit, mais quel joueur. Il doit encore progresser sur pas mal de choses. J'espère qu'on va pouvoir le convaincre d'être calme, d'oublier les réseaux sociaux et de se concentrer sur ce qu'il doit faire.
Alors, oublier les réseaux sociaux. On a tous vu ou beaucoup vu ce film tourné par TF1 après la Coupe du Monde. Il n'a pas joué en Coupe du Monde puisqu'il était toujours blessé. Et par contre, c'était le grand animateur des réseaux sociaux et de tout.
C'est un ambianceur, c'est quelqu'un d'extrêmement...
C'est joyeux.
Ouais, joyeux et humain.
Ce qui est
important, la problématique,
déjà.
C'est qu'à Monaco, pour être très clair, c'est carrément la principauté et la présidence qui l'a foutu dehors parce qu'il n'en pouvait plus, parce que l'ambianceur est bien gentil, mais il en fait un peu trop.
Ça doit être dur de faire l'ambiance
voilà,
à Monaco.
Il aime beaucoup la vie nocturne. On a pu voir ses frasques du côté de... Et je pense qu'avec un mec comme Pep Guardiola, il y a un moment, il faut grandir dans sa tête. Je pense que...
Non, mais il a été blessé, donc peut-être qu'il sortait parce qu'il
oui,
était blessé.
Mais, oui, mais Annie, à un moment, des blessures...
Je fais l'avocat du diable.
Non, mais je rappelle juste une situation aussi. Justement, lors de cette blessure, il y avait une séquence qui, pour le coup, avait fait rire jaune et pas qu'un peu Pep Guardiola lors d'un but marqué à la toute dernière seconde par Raheem Sterling face à Southampton, où vous avez Benjamin Mendy et on le voit blessé, il avait sa béquille et il court avec l'une de ses deux béquilles, justement. Alors il court, vous allez me dire qu'il allait bien, mais tout de même, il court alors qu'il est loin d'être en forme et donc il ne se souvient pas convenablement. Voilà, il n'était pas.
Mais il l'a parfaitement refusé, la déclaration est absolument fantastique et d'ailleurs. Quand par moment on a envie de tuer, par moment on a envie de se dire quel joueur. Mais bon, c'est aussi ça le football, c'est parfois aussi des personnages, c'est aussi des caractères.
Pastore par exemple.
C'est aussi des caractères. Ouais. C'est un agent d'ambiance, Benjamin Mendy. En même temps, Monaco ils l'ont foutu dehors, c'est 60 millions d'euros qu'ils ont empoché. Hein,
on est d'accord.
Il y a un moment, c'est le défenseur du champ de la planète au moment où il l'achète.
Oui, mais il y a un moment donné, j'espère, comme l'a dit Didier Deschamps, quand tu es champion du monde. tu passes
un statut.
Oui, mais il changera pas complètement, c'est sa nature.
Oui, mais il le faut un peu, parce que s'il veut être grand, parce que il a été l'ambianceur, mais moi, pour moi, le latéral gauche de l'équipe de France,
c'est Lucas Hernandez.
Ah, oui. Et là, maintenant, il y a un Guardiola qui le reprend, genre, par l'oreille, et qui lui dit, écoute,
mais hier, c'est deux passes décisives, hein, au passage.
Oui.
Après, il y a des pertes de balles, il peut être énorme.
Il peut être extraordinaire. Alejandro.
Non, mais en tout cas, Guardiola ne parle jamais gratuitement. Surtout quand il parle de quelqu'un en particulier, quand il fait passer un message, c'est aussi une forme d'avertissement.
Et
je pense que Benjamin Mendy a dû le comprendre, j'espère.
Il a répondu sur les réseaux sociaux, on a l'impression.
Il faut qu'il les lâche.
Contrairement à d'habitude, il n'a pas fait de vidéo post-match. D'habitude, il en fait toujours une, des vidéos.
Il fait des blagues avec Bernardo Silva, qui est un peu le clown de l'histoire. C'est
peut-être de leur âge, mais c'est vrai qu'il faut être, par contre, ne pas avoir de reproches ou ne pas prêter le plus grand aux reproches.
Quand ton entraîneur s'appelle Pep Guardiola et qui fait passer le message en public, je pense que effectivement, il faut l'entendre.
Oui, c'est un message, c'est évidemment un message, mais passé de manière subtile et intelligente.
Tout à fait.
Et respectueuse. Mais je trouve que c'est
presque
bien.
Un peu d'humour, c'est vrai. Peut-être plus d'humour que José Mourinho, on va y venir, mais juste avant quand même, City a donc remporté son match. C'était aux dépens d'un certain Arsenal. Oui. Arsenal qui commence l'après Wenger, parce que.
Enfin, on a l'impression que Arsène Wenger était toujours là. Hein. Là, on est à un moment donné. Mais malheureusement, dans le jeu.
Avec un autre accent. Peut-être.
Avec un autre accent un peu plus espagnol, effectivement, Unai Emery.
Ils fait 2-0 dans leur propre stade.
Oui,
donc.
Alors, Unai Emery, c'est vrai qu'il a fait une très bonne pré-saison, hein, pour le coup, avec du jeu, Lacazette, Aubameyang ensemble, et ça matchait bien.
Et hier, ils n'ont pas joué.
Alors, le problème, c'est que hier, il s'est dit, il y a City en face. Et donc, je dois peut-être changer ma manière de jeu, ou plutôt, je dois, entre guillemets, correspondre à City pour tenter de battre cette formation. Donc, avec des choix qui ont surpris, il y a eu plusieurs choix sur le côté droit, Bellerin, Di Steiner, au milieu terrain, le petit Guendouzi, l'ancien de Lorient, première titularisation pour le premier match. C'est son problème face à City, tout simplement. Aubameyang seul, pas de Lacazette. Enfin, des choix qui ont été totalement ratés. Alors, Unai Emery en partie les a assumés en disant aussi après le match que c'est que le début, laissez-nous prendre notre temps, etc. Ce qui est vrai, c'est le début, il en reste 37 autres. Donc, on peut quand même lui laisser le bénéfice.
Mais ils vont à Chelsea, hein, la semaine prochaine.
Oui, c'est ça.
Il a un tableau pour attaquer son aventure en première ligue.
Malgré tout, voilà, laissons lui bénéfice du doute avec notamment certains autres joueurs qui vont arriver et il va comprendre qu'il y a des choix à faire.
Alejandro, ce choix avait surpris quand Unai Emery a été choisi pour Arsenal. Est-ce que vous y voyez, vous avez compris, je dis vous parce que vous suivez beaucoup la Liga et qu'on l'a beaucoup vu et on le sait, c'est victoire en Ligue d'Europa.
Arsenal voulait couper très vite les suspens et voulait pas laisser le vide s'installer. Emery était disponible, il sortait de saison plutôt... Pas désastreuse, en tout cas assez convaincante du côté du PSG. C'était probablement dans leur esprit une bonne solution. Après, je pense qu'Emery a toujours cette espèce de boulet qui est d'avoir beaucoup réussi avec des clubs qui sont pas top, donc des clubs qui sont plutôt dans la lutte contre des équipes plus fortes que lui, et là il a du mal à assumer les statuts d'un PSG ou d'un Arsenal qui sont quand même à un autre niveau.
On y reviendra sur Arsenal et sur ses Gunners. Je voudrais juste terminer, et bien sûr, quelques secondes de José Mourinho, justement, avec ou sans humour, c'est vous qui me le direz. Il a fait allusion, à Paul Pogba. Alors, on sait, Pogba, ils ont des petits différents ou des grands, mais United a gagné dès son premier match, et surtout, Pogba a marqué un but. Et en plus, Paul Pogba aurait des désirs d'ailleurs.
Pogba was a monster. We thought maximum 60 minutes, but he managed the 80.
Alors Pogba, dit-il, a été un monstre tout simplement sur le terrain. On pensait qu'il tiendrait 60 minutes, il a même tenu 80.
Mais Pogba a été de très loin le meilleur joueur de la partie. Il avait le brassard de capitaine.
Il est sur sa dynamique Coupe du Monde.
Ah mais là clairement. Enfin, on parlait des champions du monde. Hugo Lloris a été excellent avec Tottenham. N'Golo Kanté a été brillantissime avec Chelsea. Paul Pogba brillant avec Manchester United. Donc les champions du monde, Dembélé, on en a parlé tout à l'heure. Oui, ils sont sur leur bonne forme. Et Pogba, heureusement qu'il a pour United, parce qu'à United il n'y a rien d'autre. Non, Mourinho est taquin. Vous inquiétez pas. Aujourd'hui, il a qu'une envie, c'est de garder Pogba. Hein. Voilà. Il sait qu'avec Pogba,
est-ce qu'il va le laisser partir
chose. Lui ne
veut pas. Après, vous savez qu'il y a toujours un certain Milo Raiola qui est dans le coin. Mais José Mourinho, il sait que s'il peut gagner, c'est avec Pogba sur un passant.
Il y en a qui craignent, il y a un feuilleton à la Coutinho avec Pogba. Mmh.
On y reviendra, évidemment, sur cette première ligue et sur tous ces championnats qui ont repris ou qui reprennent. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci aussi à Louis Lafargue qui m'a aidé à préparer l'émission. Richard Rifono était aujourd'hui à la réalisation. Et on vous donne tous les trois un rendez-vous, évidemment. À demain. Merci. We'll be right back.